histoire épique, ou comment certains faits sont devenus dans la culture commune les éléments déclencheurs officiels d'événements historiques.
C'est reparti pour nous et histoire épique, avec toujours notre chercheuse en archéologie, Estelle Yvain. Et très chère Estelle, on s'était quitté le mois dernier à la fin du Paléolithique, qui est, rappelons-le, l'âge de la pierre ancienne, en apprenant comment Homo sapiens avait conquis une partie du monde plus qu'une autre. Et nous allons glisser lentement, bien entendu, on parle de préhistoire, on a le temps, on va glisser vers le Néolithique, l'âge de la pierre nouvelle, sans oublier bien sûr une période plus méconnue, mais qui sera l'objet de l'émission d'aujourd'hui, à savoir le Mésolithique, l'âge de la pierre du milieu. Alors n'oublions pas bien sûr le thème de l'émission, n'oublions pas notre cher François Ferdinand, archiduc d'Autriche, qui guide notre émission en continuant à nous demander si ces changements de période correspondent à des faits marquants, connus de tous, ou bien au contraire si les dernières recherches prouvent que le découpage historique est plus compliqué que cela. Avant de te laisser la parole, ma chère Estelle, notre thésarde en archéologie, revenons sur les questionnements des auditeurs qui ont été choqués d'apprendre que l'hypothèse du détroit de Bering concernant la conquête de l'Amérique n'est pas finalement si évidente que cela. Et évidemment, nous, on est tout heureux parce que c'est pour ça qu'Histoire épique existe, à savoir remettre en cause ce que l'on pensait tous. Et pour m'accompagner, j'ai mon cher Lionel qui est revenu. Je crois que t'as aimé la première, Lionel.
Ah, c'était excellent, et avec Estelle, c'était du bonheur. Merci de m'inviter encore.
C'est un plaisir. Et on retrouve Christine aujourd'hui, Christine qui s'invite à l'émission. Christine, professeure d'histoire géo au lycée Douanier-Rousseau à Laval.
Oui, je ne sais pas s'il faut faire tant de publicité, mais écoutez, puis je suis absolument ravie de participer à cette émission et d'apprendre des choses sur la préhistoire, parce que comme étudiante en histoire, je ne l'ai jamais étudiée. Donc voilà, j'ai évidemment quand même pris quelques bribes au fur et à mesure. Mais là, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Ça me ravit.
On en est sûr, Estelle va nous faire ça. Bonjour Estelle, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir de t'avoir encore avec nous. Donc, je rappelais, on arrivait à cette colonisation du monde. Tu nous as parlé aujourd'hui de ton plan. On continue à avancer dans l'histoire et on arrive à ce fameux méso qu'on connaît mal. Hein. Et donc, toi, c'est un petit peu aussi ta spécialité. Tu vas nous expliquer tout ça. Moi, j'ai travaillé, Estelle, j'ai lu un certain livre que tu connais, bien entendu, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, qui est tout simplement passionnant à lire. On apprend plein de choses et donc voilà, je suis avec de nouvelles convictions et tu vas essayer de me les corroborer ou les déconstruire, bien sûr, comme d'habitude.
Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est juste un petit récapitulatif de cette période du Paléolithique.
Oui. Oui, bonne idée.
Voilà, donc on en est arrivé à Homo sapiens.
Oui.
Donc, sachant que avant, il y a 100 000 ans, il y avait une bonne dizaine d'espèces humaines.
Reste près de ton téléphone, Estelle, s'il te plaît.
Ouais, il y avait une bonne dizaine d'espèces humaines sur Terre. Il n'en reste plus qu'une, c'est la nôtre. Hein? Et puis, pour connaître Sapiens, ben, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder dans un miroir, puisqu'on est tous des Homo sapiens aujourd'hui.
Et voilà. Tu nous disais donc que si on regarde un sapiens, il y a combien d'années alors du coup là
Les premières traces de sapiens, c'est 200 000 ans.
200 000 ans, on se reconnaîtrait. On aurait le même à peu près le même faciès.
Ouais. Il serait un petit peu plus rude, mais sinon on se reconnaîtrait sans difficulté.
D'accord.
Sapiens, qui va le caractériser, donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est tout d'abord qu'il va partir à la conquête de la planète, ce qui est quand même assez fabuleux puisqu'il vient d'Afrique, et il va réussir à conquérir des écosystèmes complètement différents, et puis des zones bioclimatiques complètement différentes aussi. Et on le connaît aussi par le développement des œuvres d'art, puisqu'il y a des petites choses aussi qu'il faudrait peut-être rappeler de temps en temps aujourd'hui. C'est que Sapiens, s'il a pu se développer autant, s'il a pu avoir autant d'inventions, c'est qu'il a fait des échanges et qu'il a rencontré des gens sur des centaines de kilomètres, qu'il a migré sur des centaines et des centaines et des milliers de kilomètres,
oui.
Et qu'il a développé ses réseaux sociaux sur des centaines de kilomètres. Certains groupes ont développé des réseaux sur des centaines de kilomètres. Donc c'est vrai que ce qui a permis tout ça, c'est des échanges d'idées. Hein, des contacts directs et indirects avec des populations qui sont éloignées.
Mmh.
Donc voilà.
Et ces populations,
certains l'oublient un peu aujourd'hui.
Ces populations, tu nous disais, c'était déjà sapiens ou c'était qui alors?
C'était que des sapiens. À partir de, on va dire, avec la disparition de Néandertal, donc il y a 40 000 ans, il n'y avait plus que des sapiens.
D'accord.
Des populations qui se sont vraiment éloignées les unes des autres, mais il y avait des contacts en fait. Et puis, on sait, par exemple, pour s'approvisionner en silex, vous pouvez parfois faire des centaines de kilomètres.
Oui.
Donc et ils avaient donc... alors, ils ne faisaient pas forcément, c'était des échanges, mais ça veut dire qu'il y avait des échanges sur des centaines de kilomètres.
Oui.
C'est bien
oui.
pour ça qu'ils ont réussi à autant se développer par rapport à Néandertal, qui, lui, n'a pas eu ces réseaux sociaux-là.
D'accord.
Et qui fait que il n'a pas innové comme a su innover Sapiens, aussi parce que Néandertal est resté sur ses territoires, tandis que Sapiens a fait énormément d'échanges.
Mmh.
Donc, énormément d'échanges d'idées et de contacts avec d'autres populations.
Alors, Lionel, oui.
Oui, donc là, tu parles d'échanges au cours de ce grand chemin. On a l'image plutôt d'un Sapiens un peu plus belliqueux. Donc là, on peut imaginer quand même qu'il y avait des rencontres plus pacifiques
Il y avait des rencontres plus pacifiques. Et puis, on peut imaginer aussi, effectivement, un Sapiens parfois un peu belliqueux. Mais on a des rencontres plus pacifiques. Et puis, on sait qu'on a, on ne sait pas trop comment les qualifier. Est-ce qu'il s'agit d'échanges? Est-ce qu'il s'agit de tel qu'on les perçoit aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de l'ordre du rituel? Mais en tout cas, ils ont. C'est assez facile à repérer avec le silex, et les roches. On sait d'où sont originaires les roches. Elles ont des caractéristiques géologiques qui font qu'on sait d'où elles viennent.
Ouais.
Et on constate que pour Néandertal, par exemple, il s'improvisionnait sur des roches locales, tandis que Sapiens, parfois, il s'est improvisionné sur des 100, 200 kilomètres pour aller chercher le bon silex qui permet de faire les plus jolies pointes.
D'accord.
Et ça implique aussi des rencontres avec d'autres personnes, ça implique de voir d'autres groupes et c'est certainement ce qui a stimulé en fait les inventions chez Sapiens, alors que Néandertal est resté replié sur lui-même, donc moins d'inventions.
D'accord.
Ça aussi, faut.
Alors, j'ai lu, Estelle, moi, dans mon livre passionnant, qu'à la base, on n'aurait pas dû être l'espèce prégnante, puisque tout simplement, Néandertal avait un physique plus costaud que Sapiens, mais que Sapiens, grâce à ce que tu es en train de nous dire, grâce à ses échanges culturels ou échanges intellectuels avec d'autres personnes de son espèce, a pu créer des groupes et devenir forcément, en groupe, on est plus fort que tout seul. Est-ce que ça c'est vrai ou toi t'es pas d'accord avec ces théories?
Ça c'est une large hypothèse de travail, ouais, tout à fait. Néandertal, il y a eu des périodes où Néandertal il a fait plus chaud, plus froid, et pendant les périodes où il faisait plus chaud, donc il s'est allé sur son territoire, mais c'était tout petit groupe.
Ouais.
Et qui restait sur des petits territoires. Et ce qu'on constate, c'est qu'à la fin de Néandertal, eh bien, il y avait un gros appauvrissement génétique, en fait. Les groupes, ils restaient trop sur eux-mêmes,
ah oui.
finalement.
Mmh.
Et alors que Sapiens, pas du tout.
Mmh.
Donc, il y a ça à prendre en ligne de compte, le fait que Sapiens échange, Sapiens rencontre, est en contact avec les autres populations, circule sur des territoires. Et c'est certainement ce qui a impulsé aussi toutes les innovations que l'on connaît. D'ailleurs, on sait que les populations de Sapiens qui sont retrouvées plus isolées ont eu tendance à moins innover aussi.
Ah oui.
Hein, de la même façon. Ouais.
Oui, Lionel.
Donc finalement, celui qui survit, c'est celui qui s'adapte le mieux. Et peut-être pour employer un mot un petit peu compliqué maintenant, mais plus intelligent, quoi.
C'est pas plus intelligent. C'est celui
voilà, je
qui
sais
va,
que...
qui va
s'adapter.
Ça va être la stimulation avec la rencontre d'autres groupes qui est essentielle aussi à comprendre.
On peut parler de métissage ou pas?
Parce que on est confronté à d'autres groupes où il faut faire mieux que le voisin, où il faut échanger. Voilà, c'est les populations qui se sont... On voit très bien ça avec les industries lithiques, c'est-à-dire le matériel taillé sur lequel moi je travaille. Les populations qui se retrouvent isolées, très vite, leur industrie lithique, entre guillemets, s'appauvrit, devient plus frustre, moins élaborée.
Mmh.
tandis que les populations qui restent en contact avec les autres continuent d'innover dans la technologie lithique. Donc, c'est vrai que c'est la stimulation aussi avec des autres groupes qui fait que les échanges, la confrontation avec les autres, qui fait qu'on va innover, qui fait qu'on va inventer.
Dans un temps plus moderne,
Estelle ? Dans le monde que ça peut marcher, en fait.
Dans un temps plus moderne, on dit souvent que les guerres ont boosté tout ce qui est la découverte de nouvelles technologies et ainsi de suite. C'est vraiment des moments qui stimulent évidemment l'invention et l'inventivité. Alors malheureusement, là, c'est au service de la guerre. Toi, à l'époque, bah, c'était au service de la chasse, peut-être, ou des choses comme ça.
Et certainement, c'est de la confrontation avec les autres aussi. Hein.
Ouais.
Très clairement. Très clairement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'ossements encore, beaucoup de cimetières, donc c'est compliqué de vraiment savoir s'il y avait beaucoup de meurtres, beaucoup de choses comme ça. Mais à la fin, là, je vous expliquerai aussi ce qu'on a trouvé sur Teviak et Edic. Et ben, sur 23 morts, on en a quand même 6 qui sont morts de mort violente, hein, et qui ont été, c'est des meurtres en fait. Donc, ouais. Donc voilà, c'est quand même des sociétés qui peuvent aussi être violentes.
Ouais. Tu es toujours au paléolithique, là, Estelle ?
Alors là, c'était juste la fin complètement. On est sur du mésolithique, mais on n'a pas de grand cimetière paléolithique, donc c'est compliqué de faire le raccord entre les deux.
Voilà.
Par contre, on a, on a quand même différentes traces qui montrent qu'on peut avoir des sociétés aussi assez violentes, notamment par exemple avec le cannibalisme, des choses comme ça. Ça par contre c'est documenté et ça a existé en vrai.
Mmh. Ouais, déjà.
Chez Sapiens et au méso ou paléo ?
Alors le cannibalisme, ce qu'il faut distinguer, c'est le cannibalisme alimentaire du cannibalisme rituel. Donc voilà. Déjà pour commencer. Donc le cannibalisme alimentaire, ça va être je mange l'autre, voilà, tout simplement, sans me poser de questions, comme si c'était un animal. Le cannibalisme rituel, il va y avoir des anomalies de représentation, des ossements qui seront pas assez représentés par rapport à d'autres, traités de façon différente. Donc on va voir ça en archéologie, en constatant que soit les corps humains sont traités comme des animaux, et là c'est du cannibalisme alimentaire, soit il y a des anomalies de représentation et on est sur du cannibalisme rituel.
Mais j'espère, oui. Estelle, que le cannibalisme n'est pas un marqueur historique pour faire passer l'espèce humaine d'un moment
non, pas
à
du
un
tout.
Autre.
Ou, pas du tout, ou du mais paléo, c'est de l'événementiel. Et comme moi je suis là dans une histoire qui n'a pas d'événement, c'est...
Oui, oui, mais tu nous parlais de ce méso.
Je vais le faire de l'événementiel, je vais parler de...
Oui.
Je vais leur montrer qu'il y a aussi de l'événementiel. Il y a aussi de l'événementiel dans la préhistoire. Donc il y a cette petite histoire-là de confrontation entre des groupes et on en a des traces. Alors, les premières traces de cannibalisme, ça n'a rien à voir, c'est avec Homo erectus, donc on va passer, puisqu'on a déjà fait Homo erectus.
Oui.
On sait que Néandertal en a fait aussi, hein, c'est plutôt des anomalies de représentation d'ailleurs, donc plutôt du cannibalisme rituel qu'on va avoir chez Néandertal. Avec à Totavel, hein, un site qui est connu, par exemple, en général en France, c'est plutôt connu.
Oui, l'homme de Totavel.
Et là, on a du cannibalisme rituel, donc réalisé par Néandertal. Et puis, on a Sapiens. Donc, Sapiens, pour lequel il y a des traces de cannibalisme, par exemple, en Angleterre, hein, à Somerset, vous connaissez les fameuses coupes de crâne là, que l'on voit dans toutes les représentations.
Oui. Ah. Ouais, il y a ça dans Raon,
Indiana Jones.
tout ça. Ben, ça a vraiment existé.
Ah, oui.
Ça a vraiment existé. C'est vraiment documenté. Il s'agit d'un cannibalisme rituel. Et on en a des traces. Les traces les plus anciennes qu'on ait de ça, c'est en Angleterre, dans le Somerset. On a donc des calottes crâniennes qui sont retaillées pour en faire des coupes à boire. Mais vraiment comme dans les BD. Hein,
ouais.
Et ça servait vraiment à boire. Donc c'était un traitement de crâne très particulier. Donc là, on est dans le cannibalisme rituel. Hein, et ce genre de forme de cannibalisme va perdurer jusqu'au Moyen-Âge dans certaines régions d'Europe.
Ah, quand même. Tu parles de cannibalisme avec des coupes faites avec des crânes. Est-ce que ça indique qu'il y a eu, comment dire, de la viande humaine qui a été mangée pour
oui.
faire... Oui, ah oui,
oui.
C'est pas
Alors,
seulement...
Alors, ils les mangent et après, ils traitent leur crâne.
D'accord.
Voilà. Donc, au paléolithique, c'est comme ça. D'abord, ils les mangent et ensuite, ils traitent leur crâne. Donc, on retrouve les ossements qui sont traités un peu comme les autres carcasses animales. Donc, notamment, on enlève la viande et on trouve. Et comme on enlève la viande, on va trouver sur les os des traces de silex qui montrent qu'on a enlevé la viande. Puis, ils enlèvent la moelle aussi. Donc, les mandibules sont brisées pour extraire la moelle. Et donc, on va reconnaître ça parce qu'on va reconnaître les mandibules brisées, puis on va reconnaître les traces de silex sur les ossements. Donc, ça, c'est mangé. Et puis, on a ce traitement.
Bon appétit, messieurs, dames. Hein,
Oui, c'est l'heure. Hein.
Voilà, et on a ce traitement particulier des crânes qui va faire que on va faire en plus un cannibalisme rituel. Voilà. Mmh. Donc c'était. Et puis on a aussi en Bretagne le plus vieux breton que l'on ait, le plus vieil ossement breton, parce que vous savez qu'en Bretagne les ossements sont très mal conservés, puisqu'on a un sol acide, granitite et acide, donc du coup les ossements ne sont pas conservés. Donc, on n'a pas d'ossements qui datent du paléolithique. On a des ossements qui datent du mésolithique. Et on a notamment une mandibule qui a été trouvée à Bégarville, à Quiberon, qui date de 8000 ans. Et donc, cet ossement a été examiné par plusieurs chercheurs. Et dessus, il y a 24 traces de découpe. Donc, avec des outils en silex. Donc, en fait, le plus vieil ossement que l'on ait d'humain en Bretagne, c'est quelqu'un qui s'est fait manger.
Ah, d'accord. À Quiberon.
À Quiberon.
Ils ont trouvé une ouais. côte aussi, je crois, une côte sauvage.
8000 ans, ça paraît d'hier quand même dans le défi historique.
À 8000 ans, on tombe sur le mésolithique, ouais. C'est,
à 8000 ans, c'est le méso.
Beaucoup plus récent que ce qu'on a fait jusque-là. Ouais.
D'accord.
On rentre dans le plus récent, là.
On ouais. est dans le plus récent, on entre dedans par le cannibalisme, d'accord.
Et on rentre dedans, voilà, parce que comme ça fait du sensationnel, ça fait de l'événementiel.
Ouais, bien sûr, on aime ça.
Donc voilà, le mésolithique, on rentre dedans comme ça. On est dans la deuxième partie du mésolithique.
Non mais attends Estelle, qu'est-ce qu'ils ont fait là en 300 000, moins 300 000, ils découvrent le feu et jusqu'à, ouais. jusqu'à 8 000 seulement, là, on a du mésolithique et du...
C'est le réchauffement climatique non, qui crée la modification, non, c'est ça, le fait qu'on passe au mésolithique.
Donc le passage entre paléolithique et mésolithique, donc la dernière fois on est arrivé à la fin du paléolithique, donc
oui.
le passage entre paléolithique et mésolithique se fait vers environ il y a 12 000 ans.
12 000, mmh. ok.
Ouais, on est vers 14 000, 12 000 ans, à peu près.
Mais alors, tu as quand même toute une période où finalement l'humain n'a pas énormément progressé. Là, entre le... On croyait que tu nous expliquais que la découverte du feu avait été phénoménale, avait forcément pour se chauffer, pour servir d'arme, pour éloigner, oui. pour éloigner les bêtes sauvages. Mais sur tout ce temps-là, ça n'a pas créé grand-chose, quoi.
Ah bah si, t'as eu tu as eu plusieurs inventions techniques de chasse qui se sont vraiment perfectionnées.
Ouais.
On est devenu d'excellents chasseurs
ouais.
au niveau artistique. Donc on est devenu des artistes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Au niveau des rituels, au niveau de la fabrication des vêtements, on a commencé à coudre des vêtements.
Ah oui, tu disais, oui.
Qui explique qu'ensuite, on a pu atteindre des régions froides, qu'on a pu conquérir toutes les zones bioclimatiques, ce qui aurait été impossible si on s'était juste jeté des peaux de bêtes sur le corps. En fait.
Oui, ça, tu nous expliquais ça, oui.
Ouais. Donc, on a ça, on a les développements des techniques de pêche également, même si on est quand même encore mal renseigné dessus. On sait que ça existait puisqu'on on connaît des représentations de poissons, donc on sait que ça existait. Donc on a les techniques de chasse, les techniques de pêche, on a les vêtements, on a les structures d'habitation qui se complexifient beaucoup aussi. Le foyer, ben faut pas croire qu'il va rester pareil, il est de plus en plus sophistiqué. On sait, par exemple, maintenant que certaines parois, des grottes, des abris sous roches, je veux dire là où habitaient les gens, Elles étaient peintes, elles étaient comme aujourd'hui on décore notre maison. Eux, ils décoraient leur maison aussi. Donc, on a les parures qui se développent. Mmh. On a l'outillage lithique qui est de plus en plus fin, de plus sophistiqué, de plus en plus spécialisé. Là, c'est les tracéologues qui vont étudier les traces sur les outils. Et de plus en plus, un outil sert surtout à certains types d'activités. Ce n'est pas le couteau suisse du biface qui sert à tout. Ça va se complexifier. En fait, tout se complexifie. Les techniques deviennent de plus en plus complexes, ce qui fait que les gens sont de plus en plus spécialisés. On a même des exemples hein, d'apprentissage, donc pas sur la pierre taillée, parce que c'est impossible à déterminer, mais sur des statuettes en argile qui ont été trouvées en République tchèque. Et bien là, on a plusieurs statuettes qui ont été découvertes en argile. Elles ont été modelées à la main. Donc l'avantage de modeler à la main, c'est qu'on voit les traces de doigts dessus. Et donc du coup, on peut reconnaître s'il y a des petits doigts ou des grands doigts. Et ce qu'on constate, c'est que les statuettes modelées par des petits doigts sont de médiocre qualité, elles sont grossières, alors que celles qui sont faites avec des doigts plus longs sont beaucoup plus sophistiquées. Donc on a, en fait, des populations qui apprenaient aux plus jeunes les techniques de fabrication.
Ouais. Là, tu es toujours dans l'évolution dans le paléolithique, c'est-à-dire les 300 000 ans,
voilà,
en gros.
Voilà, là, on est avec Homo sapiens. Là.
Voilà, donc une évolution quasi permanente.
Tout ça.
Et alors, justement, la moins 12 000, c'est une rupture.
La grande question, c'est le mésolithique. Est-ce qu'on est sur, on appelle ça une nouvelle période, hein, donc est-ce qu'on est sur une rupture ou une continuité? Donc alors, le mésolithique, c'est quand ça commence vers moins 10 000, en gros, ça commence vers moins 10 000 et ça finit vers, en Bretagne, ça finit vers 5200 avant Jésus-Christ.
Oui.
Là, on ne peut plus parler de manière globale dans le monde, hein, c'est très spécifique en fonction des régions. Donc ça débute avec l'Holocène. Et l'Holocène, c'est quoi? C'est une période de réchauffement climatique.
Ah!
Voilà.
Ça, c'est des marqueurs.
C'est ça, l'Holocène. C'est le marqueur. C'est une période de réchauffement climatique.
Holocène. OK. J'avais jamais entendu ce nom. Mais. D'accord.
Et donc, cette période de réchauffement climatique va avoir évidemment des conséquences sur la faune et sur la flore. Logique.
Mm-hmm.
Donc,
Estelle,
rupture franche. Ouais.
L'Holocène, on est toujours dedans, c'est ça?
Ah, on est toujours dans l'Holocène, voilà. On est toujours dans une période de réchauffement climatique naturel qui est extrêmement accentuée par les activités humaines actuelles.
Mm-hmm.
Mais on est dans une période de ce qu'on appelle d'interglaciaire. On n'est pas dans une période de glaciation. Donc, on est dans un interglaciaire et toujours le même. Et donc, c'est l'Holocène. Donc, pendant longtemps, on a considéré, et sur le papier, ça fait un petit peu ça quand même, qu'il y avait une profonde rupture entre le paléolithique final et le mésolithique. Et en fait, ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas de rupture technique entre les deux périodes. C'est plutôt une continuité, en fait, qu'on observe.
Ouais.
On va avoir une transformation progressive du paysage. Ça ne va pas être du jour au lendemain où les plantes elles vont se métamorphoser. Ça ne va pas non plus être du jour au lendemain que la faune va se métamorphoser. Et donc, du coup, on a plutôt une continuité. On n'a pas de rupture une fois de plus.
Mmh.
Donc, au niveau de la flore, notamment, les paysages de steppe vont être peu à peu, mais ça va être très progressif, remplacés par des paysages plus boisés. Donc ça, c'est les études des palynologues qui le montrent, hein, les études des pollens, pour arriver à la fin du mésolithique à une forêt très dense. Mais au début du mésolithique, on n'est pas sur une forêt très dense, hein, on est sur des steppes boisées et qui vont être de plus en plus boisées au final.
Et qu'est-ce que ça implique, ça, dans l'évolution de l'espèce humaine ou dans l'émancipation
de
sapiens?
Alors ça implique, tu vois, du coup, tu ne peux pas chasser de la même façon.
Ah oui, voilà.
Tu ne peux pas chasser de la même façon en forêt dense et dans une steppe. Ce n'est pas possible.
Ouais.
On ne peut pas utiliser les mêmes armes. Donc, si on balance une lance, ben, elle va atterrir dans un arbre. Donc, tout ça va devoir être adapté, mais c'est progressif.
Mais Estelle, tu nous dis que la géographie change, les méthodes de chasse changent, mais la faune aussi change alors.
Et la faune change. Donc les grands troupeaux d'herbivores qui vivaient dans la steppe vont migrer vers les régions du nord. Hein. Avant, il y avait des rennes en Bretagne, des rennes en France. Bon, il n'y a plus de rennes aujourd'hui.
C'est pour ça que c'est la capitale de la Bretagne.
Il lui a coupé la tête.
Voilà, c'était la guillotine est passée par là. Et donc, ces espèces qui migraient et les populations, elles migraient aussi en fonction de ces espèces, eh ben, elles vont être remplacées. Et c'est ça qui est intéressant, par contre.
Ah oui.
Elles vont être remplacées par des espèces sédentaires.
Oui.
Le renne, il bouge. Il ne reste pas au même endroit en hiver et en été.
Oui.
Le cerf, il ne bouge pas. Il a son territoire. Donc, il vit dans la forêt, il ne bouge pas.
Ouais.
Et ça va être un grand changement pour l'organisation des sociétales des populations humaines, puisque comme ils vivent avec des ils vont devoir chasser des animaux qui ne migrent plus, eux-mêmes ne vont plus migrer.
Mmh.
Alors comment ils migrent ? Beaucoup moins, en tout cas.
Mmh.
Voilà, de façon différente. Mais tout ça, ça se fait de façon progressive. Donc tout le paléolithique supérieur, on appelle ça l'âge du renne, puisque c'est l'espèce qui va être le plus chassée. Et ben le mésolithique, c'est l'âge du cerf, du chevreuil et du sanglier.
Voilà. Ok.
Une des espèces forestières.
Et notre ami le mammouth là-dedans, il a disparu ?
Ah ben le mammouth, il a disparu il y a bien longtemps. Il est remonté plus au nord, puis après il s'est fait massacrer par des sapiens.
Ah, on peut imaginer que c'est une destruction humaine, alors l'extinction du mammouth.
Comme beaucoup d'animaux, en fait. Hein.
Ah oui.
Comme beaucoup de gros animaux qui se sont fait massacrés par l'arrivée de sapiens ou par des sapiens. Oui.
Mais dans ces grandes surfaces, là, c'est vrai que le mammouth est au carrefour un peu de deux époques.
Hein. Bien sûr.
Hein, pour l'humour, bien sûr.
Ok. Et donc, même par exemple dans la grotte de Rouchignac, qui date de 14 000 ans, si mes souvenirs sont exacts, où on appelle ça la grotte aux mammouths, il y a plein de mammouths représentés. Et en fait, il y avait très, très, très peu de mammouths à l'époque. Quoi. Ils avaient quasiment, archéologiquement, on n'a pas de traces en fait.
Ah oui?
Donc le mammouth, il est remonté il y a déjà pas mal de temps, hein, parce que le réchauffement, lui aussi, il a été évidemment progressif.
Mmh.
Donc voilà, nos chasseurs du Mésolithique, ils sont adaptés, ils ont adapté leur matériel cinégétique à ces changements. Voilà.
D'accord.
Et pour ceux qui vivaient en plus en bord de mer, il y a eu un autre changement qui s'est produit, c'est que c'est la remontée du niveau de la mer.
Ah, la remontée du niveau de la mer. Là, Estelle, on va prendre un petit temps pour en parler. Évidemment, c'est important, mais avant ça, on va faire une petite coupure pour nos auditeurs, parce que l'histoire, c'est passionnant, mais il faut savoir la digérer également. Donc, on se retrouve juste après cette petite coupure musicale. À tout de suite, c'est passionnant. Estelle, on t'écoute.
On va à la pêche.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. assise sur une bite d'amarrage. Elle pleure, son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Allez, on reprend tout de suite avec Estelle, notre chercheuse en archéologie. On en est dans le Mésolithique et on en est à ce réchauffement climatique avec cette mer. Cette mer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente, elle baisse le niveau de la mer? Comment il est à ce moment-là, Estelle?
Alors, il augmente très vite.
Il augmente.
Il augmente très vite. Donc, par exemple, il faut imaginer qu'il y a 20 000 ans avant aujourd'hui, la Manche, c'était un fleuve.
Ouais.
Donc, on était à 135 mètres sous le niveau actuel. Et puis, au Mésolithique, ça va aller très vite. Et ce qui fait que vers 7000 BP, before present, on est à 5 mètres sous le niveau actuel. Donc, ça va aller très, très vite, ce qui fait que les gens ils vont se rendre compte de ce qui se passe au final.
Oui.
Sur une vie humaine, ils vont perdre des territoires.
Ah oui, donc, sur une vie humaine, ouais. Ouais.
Donc c'est une remontée rapide et ils vont devoir aussi s'adapter à ça. Bah, qui dit niveau, remontée de niveau de la mer, dit aussi modification des courants, donc les zones de pêche qui peuvent évoluer aussi. Ça veut dire tout ça. Hein, c'est pas figé. Donc on a ça. Donc on a une densification du couvert forestier très importante et un littoral qui se transforme.
Tu parles de mer, Estelle, j'ai une question, je ne sais pas si elle est au bon moment, mais la notion de bateau ou d'engin sur l'eau, c'est d'actualité là au Mésolithique?
Alors, comme vous avez expliqué la dernière fois, on sait qu'il y a eu de la navigation pour atteindre par exemple l'Australie.
Oui.
Donc on sait qu'ils avaient des bateaux, sauf qu'on ne les connaît pas les bateaux. On ne les a pas les bateaux. Et il y a plusieurs groupes de chercheurs là qui essaient de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme type de navigation au Mésolithique notamment. Alors les premières traces de bateaux que l'on a, c'est des pirogues monoxyles qui sont conservées dans des conditions très particulières, c'est-à-dire des zones très humides en fait. Hein.
Mmh.
Donc on en retrouve en Angleterre, on en retrouve au Danemark, et c'est que des pirogues monoxyles. Donc,
ça veut dire quoi ça?
C'est un tronc.
Ah d'accord.
Monoxylo.
Ok.
Ouais. d'un seul tenant.
Et là, alors c'est une question évidemment très, très compliquée, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait de la voile ou ça, c'est même pas imaginable?
Ben, c'est imaginable, maintenant on ne peut pas le prouver en fait.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est tout à fait imaginable, mais on ne peut pas le prouver. Alors du coup, comme on ne peut pas le prouver, ce que des groupes, plusieurs groupes de chercheurs essaient de faire, c'est qu'ils regardent les outils que... On n'a pas le bateau.
Non.
Donc par contre, on a peut-être les outils qui ont servi à faire le bateau. Et c'est ça qu'on cherche en fait.
Ah oui, d'accord.
En faisant des expérimentations, en retravaillant les traces sur les objets, en les observant et puis en regardant ce qu'il y a sur certains sites et pas sur d'autres sites, ce qu'on essaie de trouver, c'est est-ce que certains des outils que l'on a auraient pu servir à faire des bateaux. Et pour ça aussi, il faut s'ouvrir l'esprit, faire ce qu'on appelle de l'ethnoarchéologie, c'est-à-dire aller voir chez d'autres en quoi peuvent être faits des bateaux pour lesquels il y aurait zéro trace. Et donc, on sait qu'il existe, par exemple, en Irlande ou en Écosse, des bateaux qui sont faits en peau de bête. Donc là, c'est vrai qu'en termes de conservation, c'est pas le top.
Ouais, certainement.
Et puis, on sait aussi qu'il existe des bateaux qui sont faits avec des végétaux entièrement. Donc, des roseaux, des choses comme ça. Donc, on essaie de recenser, en fait, tous les types d'embarcations qui peuvent exister. Donc, en essayant d'observer les traces que ça peut laisser sur les outils, et ensuite essayer de retrouver éventuellement dans nos lots mythiques des outils qui auraient pu servir à faire ce genre de choses. Oui. On sait par exemple que en Scandinavie, ils utilisaient beaucoup de haches taillées pour travailler le bois. Et on sait que c'était des grandes populations de pêcheurs. Donc peut-être que certains de ces outils ont servi à faire des barques. Et donc pour le moment, on a quelques pirogues, hein, on n'en a pas beaucoup, mais c'est notre trace en fait.
Mais si l'archéologue il trouve trace d'une population dans une île, subitement, c'est que forcément il y a eu une embarcation qui a amené ces sommes-là.
Oui, ça c'est comme ce qu'on a vu pour l'homme de Flores, pour... pour l'Australie, on sait, hein, ils sont allés en Irlande, ils sont allés en Corse, ils sont allés sur les îles, tout ça on le sait.
Ils n'ont pas pris l'avion, c'est sûr.
On ne les a pas. Donc on a tous les vestiges indirects, ce qu'on appelle nous en archéologie les vestiges indirects, c'est des vestiges qui ne sont pas directement l'objet qu'on voudrait, mais qui sont liés à cet objet en fait. On a les vestiges indirects. Il nous manque pour le moment les vestiges directs, mais et on progresse là-dessus.
Et voilà. Estelle, je te coupe encore, tu reprendras ta chronologie bien sûr sur la montée des mers et les conséquences, mais toutes ces inventions là de bateaux en peau de bête, tu nous disais peut-être en tronc ou autre, les inventions à l'échelle planétaire. Moi j'ai cru longtemps, je crois que c'est ce qu'on m'avait expliqué, que la maturation du cerveau humain d'Homo sapiens faisait en sorte que finalement chaque population dans les quatre coins du monde ont trouvé le feu à peu près à la même période, enfin on maîtrisait le feu à peu près à la même période, on construit certains bateaux à peu près à la même période, et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est vrai du coup ou c'est pas du tout? Il y a certaines parties du monde qui ont découvert des choses bien avant d'autres.
Alors, c'est une question hyper compliquée parce qu'on n'a pas toutes les preuves archéologiques. Pour ce qui est le plus facile, je dirais, ça viendra bien après, avec le néolithique. Ce qui va être surprenant, c'est que dans plusieurs régions du monde, on va avoir des foyers de néolithisation à peu près à la même époque.
Ouais, ben voilà, ça c'est fascinant, ouais, quand même, que dans différents endroits du monde.
On a quelque chose à peu près à même. Pour le feu, je peux pas dire. Ouais. Je peux pas dire parce que il y a trop de controverses sur les dates. On a trop peu de dates. On sait qu'en Europe, ça se passe d'une certaine façon. Ailleurs, ben c'est compliqué. Donc, c'est trop compliqué. On sait que Sapiens, il y a dès 50 000 ans à peu près, il a commencé à faire de l'art pariétal en France, on le connaît bien, en Europe, on le connaît bien, en Espagne. Mais on sait qu'il a fait aussi en Indonésie. Un début, l'art pariétal, donc figuratif, comme celui qu'on retrouve en Europe, avec des animaux évidemment d'Asie du Sud-Est, c'est pas logique. Ouais. Mais voilà, c'est. Et,
Bah ça, tu vois, ça c'est un truc qui me fascine, voilà, que des gens qui n'avaient aucun lien entre eux aux quatre coins de la planète ont en même temps, ou évidemment, j'imagine pas non plus du jour au lendemain, mais bah, sur peut-être 100, 1000 ans, finalement, découvert la même fabrication d'objets et des choses comme ça, quoi.
La même fabrication d'objets, ouais. On a la même chose avec les bifaces, par exemple, qui ont été produits dans toutes les régions du monde où il y avait Erectus, sans que ces populations aient forcément des contacts. Ouais. Puis on retrouve la même chose avec les lames de Haspoli, qui est en fait, parfois ça s'explique aussi par la solution technique la plus simple. Si on veut abattre des arbres, la lame de Haspoli est encore la solution technique la plus
simple.
Donc, mais alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis à abattre des arbres à ce moment-là et à vouloir faire de l'agriculture et l'élevage? C'est pas que la densification de la population, hein, loin de là. Donc c'est vrai que de plus en plus de chercheurs parlent de cultures qui sont prêtes à le faire. Il n'y a pas que le système technique qui doit être mature pour aborder une invention. Il y a aussi la société qui doit être mature pour aborder cette invention. Il doit y avoir une nécessité, en fait.
On t'a coupé, Estelle, au moment où tu nous parlais donc de cette fameuse montée des eaux.
Donc la remontée du niveau de la mer, donc voilà, en gros, hein, on a deux grandes transformations. Alors pour s'adapter à tout ça, l'humain, il n'a pas inventé l'arc. L'arc, il a été inventé au Paléolithique supérieur déjà, hein. Ça fait déjà quelques temps qu'il existait. Mais on a une intensification du coup de cet outil qui est l'arc, qui va se répandre partout. Avant, l'arc était utilisé, mais moins. Et là, l'arc va être de plus en plus utilisé. Ce qu'on va remarquer aussi, c'est un allègement. Les pointes de flèche, moi celle que j'étudie, enfin le mésolithique c'est ma spécialité, donc les pointes de flèche que j'étudie, elles sont minuscules, c'est quelques millimètres.
Mais est-ce que justement cette diminution de la taille rendait pas l'arc ou la flèche en l'occurrence plus efficace à la chasse?
Bah certainement, en fait il y a certainement une question d'efficacité dans une forêt très dense, peut-être que
la flèche devient plus pénétrante, j'imagine.
Voilà, des plus petites flèches, ça marche mieux que la grosse flèche pour laquelle il faut avoir quand même une certaine extension. Donc on est certainement là-dessus. Donc alors l'arc va être utilisé hein, systématiquement dans toute l'Europe atlantique, va être utilisé également en Afrique du Nord et puis au Proche-Orient. Donc toujours ce même ensemble géographique hein, auquel on appartient, hein, Proche-Orient, Afrique du Nord, Europe. Quelque chose qui va bien ensemble.
Ouais. Voilà.
Après, il y a des barrières naturelles qui font que les systèmes sont un petit peu différents au sud du Sahara, dans d'autres régions. Voilà. Mais là, c'est un système qui marche bien.
Mmh.
Donc voilà notre mésolithique. Alors, mésolithique qui est le pauvre, qui est souvent considéré comme une période décadente, hein, puisque qui se situe entre ces fameuses magnifiques peintures du paléolithique, et puis au néolithique, on a les mégalithes, et on a tout ça, donc c'est sensationnel. Pour le mésolithique, on n'aura rien de sensationnel, en termes de monuments, en termes de vestiges, voilà, c'est pas sensationnel. Donc du coup, ça a été longtemps considéré comme une période de décadence, puisqu'on est très matérialiste.
Ouais.
C'est pas du tout le cas en fait. Hein. C'est pas du tout le cas. C'est une période avec des grandes innovations justement du matériel synergétique qui vont beaucoup se développer, mais c'est moins spectaculaire parce qu'on considère aussi que c'est une civilisation du bois. Donc c'est des outils composites que l'on a avec bois plus pierre. Donc ça va faire des trucs qui nous restent. Il nous reste que la pierre. Donc, ça va faire moins spectaculaire. Mais il faut imaginer qu'il y avait que l'objet n'est pas entier quand on le récupère. Donc,
oui, voilà. Évidemment.
Alors que pour le paléolithique supérieur, ben la lame de lance, elle est assez spectaculaire par elle-même, parce qu'elle est entière. Alors que sur une flèche mésolithique, eh ben, il faut imaginer qu'il y a une hampe en bois et puis qu'il y a plusieurs petites lames en même temps. Enfin, voilà. Il faut avoir un peu d'imagination.
Voilà. Et je crois que tu n'en manques pas, Estelle, évidemment, pour faire toutes ces découvertes. Il nous reste 5 minutes d'émission, Estelle. Est-ce que tu penses pouvoir conclure ton mésolithique ou il restera encore du temps de parole derrière?
Il y a plein de choses à dire sur le mésolithique. C'est absolument fascinante.
Qui est fascinant. Heureusement que tu viens de nous dire que c'est une période qui semble un peu plus trouble que les deux autres. Et que...
Non, mais ça fait partie de ces périodes mal aimées. C'est comme le Moyen-Âge qui, pendant longtemps, s'est traîné cette réputation.
Moi, j'aime beaucoup plus, du coup. Et puis même au niveau artistique, en fait, le mésolithique, ce qui est fascinant, c'est que c'est une période de transition. On voit le mésolithique, l'art caractéristique, c'est des pauvres galets avec un peu de point dessus ou quelques gravures abstraites. Voilà, donc ça le fait pas par rapport à Lascaux, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr.
Mais en fait, il y a tout un système de transition. Et on a trouvé ça avec le Rocher de l'Impératrice à Plougastel-Daoulas, Saint-Finistère, qu'il y avait des plaquettes de schiste qui ont été gravées avec des aurochs magnifiques au tout début du Mésolithique, enfin fin paléolithique, à une période qu'on appelle l'Asilien.
Les aurochs.
Et les aurochs.
Encore un bœuf en fait, qui n'est plus.
Progressif. Alors, donc voilà, donc si j'ai plus que 5 minutes pour le mésolithique...
Un petit mot sur l'habitat aussi, on n'est pas encore dans l'habitat en dur, en mésolithique?
Non, pas encore, non, parce qu'on est toujours chez des chasseurs-cueilleurs.
D'accord, mais justement, tu nous parlais tout à l'heure avec ce réchauffement de cette sédentarisation, est-ce qu'on y est là?
Alors, la toute fin du mésolithique.
Ah, très bien.
En Bretagne... On a certainement une occupation relativement pérenne du littoral.
Ouais.
Et ça, on le sait, parce que en Bretagne, on a la chance d'avoir deux grandes sépultures mésolithiques. C'est Téviac et Édic dans le golfe du Morbihan. Donc là, on a 23 corps à Téviac, on en a 14 à Édic. Ça a permis de faire plein d'analyses.
Ouais.
Et du coup, on connaît, par exemple, leur alimentation et on sait qu'à Édic, par exemple, ils consommaient 80% de leurs protéines, c'était d'origine marine. Mm-hmm. Donc, ils étaient vraiment fixés sur le littoral. Sauf les jeunes femmes, qui, elles, avaient une part protéinique qui était beaucoup terrestre. Donc, soit on leur donnait une alimentation spécifique, soit elles venaient de l'intérieur des terres. Donc, c'est intéressant d'imaginer ce que ça peut représenter. Téviac et Édic, c'est une foule d'informations, on pourrait passer des heures à les décrire parce que tous les corps ont été analysés de long en large et en travers. On a 23 corps parmi lesquels il y a quand même 6 meurtres.
Ah oui, petite
dent. Dont un avec flèche. On a 3 enfants, 3 tout petits qui ont été tués et placés dans les bras d'adultes morts.
On va faire une mini-série Meurtre à Édic.
Ouais, c'est sympa. Hein.
Ouais, ça a l'air.
Et puis, on a des sépultures qui ont été ouvertes, fermées, en fait, des espèces de caveaux, finalement, dans lesquelles on était plusieurs morts. Donc, ce qui veut dire qu'on revenait systématiquement sur les mêmes lieux.
Et ça, c'est propre à la localité que tu nous dis là, ou c'est,
alors,
ça
là,
s'est retrouvé
ailleurs? Alors là, c'est propre aux cultures mésolithiques en Europe atlantique qui se trouvent près de la mer. Donc, on a ça en Bretagne et on a aussi ça au Danemark, notamment, et en Scandinavie. Donc,
d'accord.
Et au Portugal.
D'accord.
Donc des populations qui sont très fixées sur le littoral. Et moi, mon travail là-dedans, c'est travailler sur les pierres qu'ils utilisent et voir quelles sont les relations avec l'intérieur des terres.
Voilà. D'accord.
Donc, je développe tout les programmes là-dessus. Voilà.
Oui, Lionel.
Oui, tu parlais de... On est encore dans le cueilleur-chasseur. On n'est donc pas encore dans l'élevage. Mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui pourrait ressembler à la domestication? Et est-ce que tu peux nous donner la différence entre domestication et élevage?
Alors, déjà, est-ce qu'il y en a des traces de domestication? Les seules domestications qu'on ait, c'est le chien.
Mais domestication d'animaux, genre mouton, machin, pas élevé, mais domestiqué, quoi.
Ah non, ça, on n'a pas.
Non.
Alors, on n'a pas du tout au mésolithique. Ça viendra vraiment que au néolithique, où on aura la domestication animale et végétale. Ça va se faire. Donc, avec une sélection. Alors, la différence, c'est que au lieu de faire une sélection, d'avoir la sélection naturelle, c'est une sélection artificielle. Donc, on va sélectionner des critères qui nous intéressent chez les animaux ou chez les plantes.
Eh bien, on apprendra
ça. La nature n'aurait jamais sélectionné ça parce que c'est plutôt des handicaps pour la nature.
On apprendra voilà, ça, Estelle, dans une future émission. Du coup, je suis obligée voilà. de te couper.
Alors, juste
tout est passionnant.
Vous montrer un autre exemple de société.
Bien sûr, fais-toi plaisir.
Mésolithique, parce que Mésolithique, c'est vraiment passionnant. C'est ce qu'on a au Japon, avec la culture de Jomon, où eux, ils vont avoir des inventions sociétales très originales aussi. On est avec des groupes de gens qui ont, on peut pas appeler ça vraiment du ni mésolithique ni néolithique, qui ont vécu, c'était au Japon, et puis c'était entre 13 000 avant notre ère jusqu'à 300 avant notre ère, donc c'est très très long. Nous, on est à l'époque gauloise à 300 avant notre ère, et ouais. eux, ils vont rester chasseurs, cueilleurs, sédentaires pendant cette période-là, donc pas de néolithique chez eux.
Ah,
pourquoi
oui.
Ben parce que ils avaient un écosystème très riche et ils ont pu être sédentaires, faire du stockage en exploitant notamment les marrons, les noix, les glands et la pêche.
Ouais.
Donc dans ces cultures-là, on a d'immenses amas coquillés et la culture de marrons. Donc le mésolithique et le néolithique ne sont pas des périodes obligatoires finalement. Certains qui n'y rentreront jamais. Et
c'est une belle conclusion.
Pour autant, qui ont développé des sociétés, là pour la culture de Jomon par exemple, qui ont développé des sociétés très hiérarchisées à esclavagistes. Donc on est voilà, on a plein d'inventions sociétales à cette période-là, très très différentes en fait, en fonction de là où on se trouve dans le monde.
D'accord, on dépend essentiellement alors d'un habitat géographique pour notre avancée, pour notre culture, bien entendu. Merci Estelle, merci encore pour ce très bon moment mésolithique, l'âge du milieu.
Ah
alors,
oui. On peut pas dire sadomaso, mais c'est vraiment intéressant.
Et Estelle, on espère encore te retrouver le mois prochain pour davantage de précisions sur cette fin du méso, peut-être, et le néo. Politique derrière, parce que ça c'est une période fascinante aussi. Merci beaucoup Estelle pour ce moment.
Merci Estelle.
Au revoir.
Merci.
Et ben voilà, Christine et Lionel, on vient d'entendre Estelle sur ce méso, une grosse partie du méso. Christine, tu disais que tu ne connaissais pas. Est-ce que ça t'a ouvert un petit peu l'esprit?
Alors, évidemment. Alors, en fait, je ne connaissais pas. En fait, je connaissais.
Tu connais quand même.
En entendant Estelle parler, je me suis dit, ah, mais oui, effectivement. Et puis, ouais. C'est ces fameux âges. Moi, je trouve ça effectivement passionnant. Un, les âges de transition,
ouais.
Qui ont été effectivement mal aimés, mal connus. Et ce que je trouve surtout... hyper intéressant, et en fait je me taisais parce que j'avais juste envie de t'écouter parler et ouais. pas forcément de t'interrompre, qui n'est pas forcément le but de l'émission, je suis désolée, mais en fait moi ce qui me passionne c'est vraiment le processus de recherche, quoi. C'est le fait qu'aujourd'hui encore on soit dans la recherche, qu'on apprenne des choses, qu'on ait des théories, des contre-théories, alors ça me fascine et ça me passionne, et je trouve ça hyper réjouissant en fait, voilà, que la recherche elle soit vivace, elle soit toujours vivace, et ça
exactement.
C'est, voilà, c'est ça à la limite, c'est ce processus-là que je trouve le plus passionnant.
Et éternellement remise en cause, Lionel, encore un bon moment avec toi, mon ami.
Un très très bon, merci Christine, c'est un très bon résumé de ces émotions presque, hein. C'est pas que de la connaissance, avec quantité d'exemples, et moi je peux pas empêcher de rebondir sur tous ces exemples, parce que c'est ce que tu veux aussi Benoît, c'est qu'on comprenne qu'il y a des chocs dans ces petites civilisations.
Bien Super. Entendu, et on espère que ça vous plaît, chers auditeurs, auditrices, évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire épique. D'ici là, cultivez-vous, bien entendu, l'histoire est passionnante. Au mois prochain.